est là aussi pour éviter les soucis de bon bah lui il va dormir dehors toute la nuit, ce genre de truc. On voulait pas non plus quoi, on n'est pas là non plus pour que des gamins soient humiliés ou quoi que ce soit. Donc l'idée de l'adulte c'était quand même d'essayer de tempérer, d'essayer que ce soit un maximum éducatif entre guillemets quoi.
Dans ton projet tu mets que les réunions se faisaient en journée dans un lieu de passage en ayant comme visée finalement de d'attiser la curiosité des jeunes pour qu'ils participent en fait plus ou moins à ce qui se disait autour de cette table. Est-ce que ça fonctionnait et est-ce que ça a plutôt permis d'alimenter aussi ce tribunal, ça donnait envie aux jeunes de s'investir dans la vie publique?
Alors, en vrai, ça je le mets toujours en place et ça fonctionne pas des masses. Alors pour plusieurs raisons, déjà le temps du conseil, quand c'est un conseil qui est journalier comme ça, alors les 9-11 ans ça se passe relativement bien, mais quand on est sur des tranches d'âge un peu plus âgées, bah c'est pas, au bout d'un moment il y a des fois c'est des moments qui les saoulent un peu entre guillemets, dans le sens où bah ils feraient bien autre chose. Après voilà, ça va avec on peut pas vouloir prendre des décisions et en même temps pas avoir de temps pour les prendre, donc c'est un petit peu la contrepartie de ce système là donc peut-être qu'ils ont pas forcément envie de se rajouter une réunion en plus. Et deuxièmement, en fait, quand on fait des conseils, y a beaucoup de choses qui se règlent pendant ces conseils là y compris nous dans notre organisation, en fait on s'organise plus ou moins en même temps. Quand par exemple on décide tous ensemble que telle activité va avoir lieu le lendemain, en règle générale dans le conseil il y a tel adulte qui dit bah moi je veux bien les accompagner et voilà, et en fait le secrétaire de séance il note que tel animateur va accompagner tel gamin, etc. Et donc en fait il y a plein de choses qui se règlent déjà au moment des conseils, ce qui fait que les temps de réunion sont des temps plutôt rapides d'organisation, mais vraiment de trucs un peu à la marge quoi. Donc voilà, donc je continue à le mettre en place parce que j'ai pas envie qu'un temps de réunion ad hoc fermé qu'aux adultes puisse exister, mais en même temps ça a jamais été une très très grande réussite dans ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant.
Et si tu peux conclure du coup sur cette expérience que tu as menée sur ce projet PEDA, est-ce que tu peux me parler un petit peu des réussites, des choses qui ont marché, des choses qui ont moins réussi?
Après je pense que c'est le genre de truc qui peut plutôt bien marcher, mais lorsqu'on a une colo suffisamment étoffée en termes de nombre, c'est vrai que les séjours avec petit effectif s'y prêtent pas forcément, et je pense que ça s'y prête très très bien par contre sur tout ce qui est séjour avec des mélanges de tranches d'âge. C'est vrai qu'une colo avec suffisamment de nombre de jeunes et avec des tranches d'âge qui puissent être différentes, je pense que ça aurait vraiment un apport différent, y compris par rapport à une forme d'espèce de tutorat entre peut-être les gamins un peu plus âgés par rapport aux plus jeunes, etc. Ça pourrait être intéressant de le voir. Après, donc je l'ai fait vivre sur 2 séjours, mais c'était 2 séjours trop court. C'est vrai que l'intérêt de ce type d'institution, je pense qu'il en faut, qu'il faut du temps. Donc ça reste toujours un peu limité sur le format que nous on a de séjour majoritairement de 2 semaines. Mais ouais, j'aimerais bien pouvoir le reprendre, le refaire vivre autrement, le repenser, voir un petit peu comment ça peut fonctionner autrement avec un autre groupe. Parce que le problème entre guillemets avec mon type de projet, c'est que les personnes qui lui font le plus de mal, ce sont les adultes, y compris moi d'ailleurs, parce que on a beau avoir une envie particulière de faire partager tous les aspects du séjour avec les gamins, que ce soit quelque chose de co-construit, etc. En attendant, on a tendance à avoir notre propre attitude qui parfois fait du mal au projet parce qu'on est un peu sur une reprise de pouvoir, etc. Le fait d'avoir un tribunal des enfants, ça enlève une partie finalement de ce pouvoir dédié en principe aux adultes d'intervenir comme un couperet et d'être un petit peu la police, la justice. Donc c'est intéressant, mais il faut pas non plus que nous on ait tendance à tirer un peu trop le drap sur nous pour vraiment faire vivre l'institution dans sa plénitude, quoi.
Cette organisation, en tous les cas, enfin dans ce que j'entends, ça la prend aussi sur soi, hein, sur ses résistances.
Ah oui, clairement. Ah oui, sur ses résistances, etc. Et moi, je fais partie des personnes qui ont envie de faire ça, mais qui en même temps ont tendance à être un peu angoissées sur l'organisation, donc ont besoin que ce soit un peu carré. Donc tout ça se mélange et fait que je peux avoir des attitudes contradictoires qui vont faire du mal au projet, aux objectifs tels que je les ai fixés sur la base. Donc voilà, je travaille dessus et c'est mes axes de progrès. Peut-être que les institutions comme ça qui m'enlèvent une partie de mon pouvoir et peut-être que c'est plutôt pas mal et que ça m'aide à avancer aussi.
Pour donner envie, en fait, pour transmettre en fait ton expérience aux autres directrices ou directeurs ou animatrices et animateurs et même formateurs, hein, qu'est-ce que tu pourrais dire de ce que ça t'apporte et ce que ça apporte aux enfants?
Je pense que ce qui est essentiel, parce que en plus les séjours de vacances jeunes, enfin l'éducation populaire de manière générale a tendance à s'essouffler. On voit bien avec les colos apprenantes, etc. Enfin, on a de plus en plus une vision très scolaire en fait des séjours de vacances. Et je pense que le seul moyen pour que ces séjours restent en vie entre guillemets, c'est qu'on fasse autrement. Si c'est pour reproduire ce que les gamins vivent à l'école, ça n'a pas de sens. Donc, je pense que c'est important d'essayer de faire vivre quelque chose de différent, faire vivre autrement en fait le collectif. Et je trouve que les colonies de vacances s'y prêtent à merveille. Donc après moi je défends cette vision-là parce que ça me paraît essentiel, parce que je suis convaincue que les gamins peuvent vraiment mieux décider que nous et qu'il y a c'est quand même les mieux placés pour décider de ce qui leur plaît, de ce qu'ils veulent. Je suis convaincue que ça participe à leur construction en tant que futurs citoyens, à leur esprit critique. Et donc voilà, moi je continue à œuvrer dans ce sens-là, et je pense que je continuerai à œuvrer dans ce sens-là. Et pourtant, je travaille à l'éducation nationale, donc je pourrais être fortement marquée du saut du côté très très scolaire. Mais j'essaye de m'en détacher, et je pense que c'est essentiel. Sinon, on va continuer à tuer nos colonies de vacances et ça n'aura plus aucun intérêt de maintenir leur existence si elles n'apportent plus rien en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de faire des choses différentes, pas forcément dans ce format-là, hein. On a tous des formats qui nous ressemblent et encore heureux, il faut que les formats soient tous différents les uns des autres, qu'ils correspondent à notre histoire, à ce qu'on veut défendre. Mais c'est essentiel de faire des choses différentes de ce que nous-mêmes on a vécu, de ce que les gamins vivent dans leur quotidien, pour justifier l'existence des colos.
Merci beaucoup Laetitia, en tout cas pour ton intervention, hein, qui était très,
merci à
très
vous.
Productive.
Et aussi, j'entends encore dans la chambre des gens qui parlent, je sais pas d'où ça vient, mais...
Bah, de ta chambre, si c'est dans ta chambre.
Non, j'entends de ma chambre, mais je sais pas si ça vient dehors, des autres chambres.
Allez, reprenez-moi tout ça, hein. Bien gay, bien breton, là. Parle-moi.
Et je remets le son.
Rogueulemouette.com, la radio très nette.
Et nous avons une chance, que dis-je, une primeur, un scoop. On a retrouvé un enregistrement méconnu jusque-là d'une séance du tribunal de Korczak.
Donc vers 10 ans, mon père m'a fabriqué un lance-pierre avec des élastiques et des lanières de Birk, désolé pour la marque. Et j'ai testé ce lance-pierre avec des copains contre une maison, mais la maison avait des fenêtres et j'ai cassé une fenêtre. Donc j'avais pas le droit d'en casser une par mois, mais celle-là, elle a bien été cassée par moi.
Merci Franck, et on va laisser les juges délibérer sur la base du code du tribunal rédigé par Korczak.
Alors, je pense que, vu ton âge, j'appliquerai l'article 4. Le tribunal est certain que rien de tel ne se reproduira et renonce donc à juger cette affaire.
Je trouve que tu as raison, c'est un carreau de café, en plus il y a des assurances. Donc.
D'autant plus que le prévenu a avoué.
Exactement.
C'est lui-même qui a amené l'affaire devant le tribunal, je pense qu'on peut l'acquitter.
Ou alors, je pourrais proposer un article 52. C'est le tribunal pardonne à X, parce qu'il ne pouvait pas savoir que cela se passerait ainsi. Il ne l'a pas fait dans cette intention, mais par imprudence, par erreur, par oubli.
C'est-à-dire que le tribunal pardonne.
Allez, le tribunal pardonne.
Tout de suite, excusez-moi, monsieur le juge, de passer avec la nouvelle... Non, pas accusée. Elle n'est pas accusée. Elle vient nous parler de ses bêtises.
Alors, quand j'avais 6-8 ans, mon père posait sa monnaie sur une table dans l'entrée. Souvent, c'était des pièces rouges et jaunes. Et il les posait avec nonchalance, comme si elles n'avaient aucune valeur. Et un jour, j'ai décidé de récupérer les pièces au fur et à mesure pour agrandir ma possession. Au début, il ne s'en est pas du tout rendu compte, mais au bout d'une semaine, si.
Alors je citerai Proudhon qui a énoncé le principe selon lequel la propriété, c'est le vol. Donc
Je proposerais d'appliquer l'article 21. Le tribunal reconnaît que X avait le droit d'agir ainsi.
Je pense qu'on peut considérer que dans le monde d'un enfant, un objet qui est posé à un endroit chez lui fait partie de son quotidien et donc qu'il est en droit de se servir de ces objets.
Surtout qu'on connaît le principe, toute chose abandonnée est réputée sans maître. Donc une pièce de monnaie qui traîne nonchalamment est sans maître. Donc je pense même qu'on peut féliciter l'accusé pour avoir permis à un objet de retrouver un maître.
Non, mais je vais faire l'avocat du diable. Le père avait confiance à son enfant. Et son enfant est mercantile puisqu'il ramasse les pièces pour augmenter son trésor. Donc quelque part, c'est sciemment.
En fait, avant cet épisode de supposé vol, je m'amusais à ranger ces pièces, mais je les laissais. Et en fait, il en avait vraiment... Enfin, il me disait non, mais ça sert à rien. Ou moi, je disais, ah, mais c'est beaucoup de valeur. Il était là, non, pas trop. Et donc... Je me suis dit que s'il les posait à chaque fois sur cette table, c'était un peu comme un endroit de non-valeur et que donc, comme si on pouvait se servir finalement. Et donc, je me suis servi.
Peut-être que ton père faisait un test.
A priori, les pièces étaient plus utiles à l'accusé qu'à son père, puisqu'il trouvait qu'elle avait peu de valeur alors qu'elle en donnait une grande valeur à ses pièces.
Je propose qu'on applique l'article 41. Le tribunal demande à ce qu'on pardonne. Un accusé.
Du coup, je propose un article 72. Ah oui. Le tribunal pardonne parce que la réparation a déjà été faite.
Une nouvelle bêtise.
Les dames du centre CCS viennent de me trouver pour me dire que je n'avais pas évacué mes poubelles du gîte ainsi que mes draps sales. Je n'étais pas au courant de la consigne.
Moi, je propose l'article 50 qui stipule que le tribunal pardonne à X parce qu'il pouvait ne pas savoir ou ne pas avoir compris qu'il ne faut pas faire ou dire telle chose, que cela ne se fait pas. Le tribunal espère que X, ayant appris et ayant compris, ne commettra plus cet acte, ne prononcera plus ses paroles.
Peut-être du coup un article 52.
J'aime bien.
Le tribunal pardonne à X parce qu'il ne pouvait pas savoir que cela se passerait ainsi. Il ne l'a pas fait dans cette intention, mais par imprudence, par erreur, par oubli.
Adopté à l'unanimité.
Merci.
Adopté, le tribunal pardonne.
Une nouvelle affaire.
En lien avec ce qui vient de se passer, en fait, c'est juste d'autres lunettes sur cette situation. Peut-on pas dire que l'intervention des deux personnes peut être considérée comme une bêtise, dans le sens où la personne de la chambre 27, qui qu'elle soit, a été humiliée en place publique. Lui parler individuellement aurait pu permettre de résoudre le problème qui n'en était pas un et que on se rende compte que c'était elle qui avait mal donné la consigne.
Peut-être pourrons-nous proposer l'article 40 qui dit que le tribunal estime que Y ne devrait pas se fâcher contre X.
Oui, et j'ajouterai un article 500. Le tribunal constate que X a, du moins, que l'accusé a très mal agi et que cette sentence sera donc publiée dans l'émission de radio.
Moi, pour ma part, je trouve que l'accusation est un peu malhonnête selon l'article 8, puisque en effet, ces personnes font leur travail et c'est pas une faute dans le sens où juste simplement il y a une zone de contact entre nos deux travaux. Qui ont fait qu'on a pu interpréter ça comme une faute. Est-ce qu'elles l'ont interrompu ou est-ce qu'elles ont renforcé notre travail en nous donnant une bêtise à juger Est-ce qu'elles ont nourri notre travail même?
Tout est prémédité.
On a absolument d'autres affaires.
Le tribunal reporte l'affaire à la prochaine formation.
Article 6, report.
Alors c'est une affaire qui est, pour laquelle Kaitek a été accusé, mais qui a priori n'était pas de son fait mais d'un autre enfant, puisque quelqu'un aurait jeté une queue de hareng sur la tête du propriétaire de l'immeuble du haut de la cage d'escalier, sachant que le Kaitek s'est vu accusé du méfait qui a priori n'avait pas commis, et d'autant plus qu'il a été accusé d'avoir jeté un hareng sur la tête du propriétaire alors qu'il s'agissait simplement d'une queue de hareng. La précision étant également faite que le lancer a échoué. La queue de hareng n'a pas atterri sur la tête.
C'est bien connu, qui jette un œuf, jette un bœuf.
Par conséquent, est-ce qu'il y a un article qui renvoie au fait qu'il n'est pas coupable, qu'il n'est pas responsable?
Peut-être l'article 23 qui stipule que le tribunal estime que l'accusé n'a pas offensé la victime?
Oui, voire si on n'arrive pas vraiment à déterminer qui c'est, l'article 32 pourrait s'appliquer, étant donné que nombreux sont ceux qui font la même chose, il serait injuste de condamner un seul enfant pour ce qu'un grand nombre d'entre eux fait impunément.
Nouvelle affaire.
Moi, c'est en colo, donc je devais avoir 7 ans. Un copain m'avait dit que le sel faisait baver les escargots. Alors au repas de midi, j'ai pris un sachet de sel et je l'ai versé dans la coquille d'un escargot vivant. Et j'étais fasciné par la mousse qui s'en échappait. Jusqu'à ce qu'un animateur arrive et me dise que c'était pas bien ce que j'avais fait parce que du coup, j'avais tué l'escargot. Et juste après, en fait, je me suis senti très coupable parce que je me rendais pas compte que l'acte que j'avais fait avait causé la mort de ce pauvre escargot.
En préalable, avant de procéder à une décision, j'aimerais ajouter un supplément à la sentence, le supplément A. Le tribunal remercie pour la sincérité de la déposition de la part de l'accusé lui-même. Voilà. Malgré cela, je pense qu'une sanction un minimum sévère du fait de la souffrance extrême que l'acte a engendré. Et donc, Nicolas, mon collègue, propose le 71.
Je proposerai pas de sanction puisque, dans un premier temps, l'accusé avoue et puis il manifeste clairement le regret d'avoir agi ainsi. Qu'il agit par méconnaissance, donc je proposerai un 71.
Oui, il y a quand même mort de quelque chose, de quelqu'un. Cet escargot, il n'a rien demandé à la vie.
Sans intention de la donner.
Pouvez-vous nous rappeler l'article 71, s'il vous plaît ?
Le tribunal pardonne à l'accusé parce qu'il regrette d'avoir agi ainsi. Une petite mention spéciale par le fait que l'accusé, finalement, était dans une expérimentation et cherchait à découvrir le monde qui l'entoure. Donc,
D'ailleurs, le tribunal demande également à l'accusé de lui expliquer comment faire cette mousse d'escargot. Aimerait bien plus de précision.
Oui, bon, les juges commencent un petit peu à fatiguer. Et on va s'arrêter sur cette dernière sentence 71A.
Extrait 2.
Condamner quelqu'un sans preuve, c'est lui faire grand tort. Si Sabinka a déjà volé, ça ne veut pas dire qu'elle volera toujours. Zouza regrette beaucoup son chocolat car nous n'avons pas de bonbons. Mais Esther a de l'expérience et devrait savoir qu'on n'accuse pas sans preuve. Sabinka, pardonnes-tu à l'accusé ?
Oui.
Le micro à Thibaut.
Donc, moi, effectivement, je souhaitais vous lire une petite phrase de Janusz Korczak. Donc, Janusz Korczak qui parle d'éducation. Qu'en est-il de cet enfant commode dont rêve l'éducation moderne ? Pas à pas, avec méthode, l'éducation contemporaine tâche d'endormir, d'étouffer, de détruire tout ce qui fait sa volonté, sa liberté, la force morale de ses exigences et de ses aspirations. Bon, obéissant, gentil, facile. Pense-t-on jamais à cet homme veul, lâche et faible qu'il risque de devenir ?
Allô ? Allô ? Ah oui, mais on est toujours à l'antenne. Oui, alors excusez-moi, nous vivons une petite interruption du cours de l'émission. On s'en excuse bien évidemment, mais il semblerait qu'il se passe des choses incontournables sur le terrain et on retrouve donc nos reporters sur place.
Oui, Stéphanie, alors vous nous rejoignez à ce qui semble être déjà un tournant dans cette rencontre. Nous sommes au cœur du deuxième quart-temps et alors que le 5 majeur de Korczak avec ses joueurs forts et renommés que sont l'observation, la justice, la participation, le respect et le dialogue, donc vraiment l'équipe type, ils avaient pris les devants dans cette rencontre. Mais force est de constater que l'équipe que vous avez coachée à ses débuts, Simon, a des arguments à faire valoir et qu'elle mène maintenant la vie dure aux champions en titre.
Et oui, Quentin, c'est un match de titans que vous allez voir prochainement avec l'équipe en face des 5 mineurs avec honnêteté, un joueur qui a fait quand même du bruit autour de lui, ainsi qu'amour, on a risque, patience et le petit dernier, oh là là, comment l'oublier celui-là ?
L'écoute.
Celui-là, l'écoute. Eh oui, à ça on ne peut pas l'oublier.
Et jamais, jamais.
Incroyable.
Et ce qui est vrai par rapport, voilà, ouais. Le risque était déjà vraiment dès le début du match assez remuant. Il y avait beaucoup de volonté, mais ça partait un petit peu dans tous les sens. Ouais. Et vous avez vu comme la patience, vraiment bon capitaine d'équipe, a remis un petit peu d'allant et d'ordre dans cette équipe. C'est incroyable. Et ce que j'ai envie de vous dire, Simon, c'est l'amour, mais wow. Mais l'amour. C'est incroyable dans ce carton ce qu'a fait l'amour.
Ouais.
3 dunks de suite, 4-3 points.
C'est incroyable. Et c'est parti.
C'est parti.
Aïe, aïe, aïe. C'est parti. Possession du ballon.
Oui.
5 majeurs. Majeurs avec toujours observation et patience qui prennent leur temps. Qui prennent beaucoup de temps. Allez-y.
Voilà, justice qui se décale. Justice qui décale. Passe pour dialogue. Dialogue qui trouve l'intervalle. Observation qui shoot.
Oh là 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 là, c'est incroyable. Oh là là.
attention, parce qu'on attention. Est sur des schémas que les autres équipes connaissent.
Oui, exactement.
On va décortiquer tout ça.
Oui.
Vous avez décortiqué tout ça avec l'équipe.
Ah, ben oui, on l'a vu notamment en 53 avec l'autre match du 5 mineur qui avait complètement aspiré une éducation traditionnelle. Pas du tout horizontal, si vous voyez j'en venir.
À l'époque, mépris était à son plus haut.
Ah, mais bien sûr, mépris, discipline.
Exactement.
Complètement renversé la tendance.
Si je peux me permettre de revenir à ce match, parce que ça n'arrête pas.
Oulala, ça reprend.
Et voyez, regardez comme patience. Regardez, patience qui ramène du calme.
C'est l'émotion.
Et on ne parle pas assez d'honnêteté.
Non.
Qui fait un travail de sape, comme ça, qui est discret, mais qui est toujours là, qui est toujours présent.
Honnêteté, il fait une faute, il le dit tout de suite. Ça, c'est sûr. Ah ben regardez la faute là.
Et voilà, il lève la main, il reconnaît sa faute et on repart avec un score quasiment d'égalité puisqu'on est à 44 à 42 pour l'instant.
Ouh, attendez, il y a un petit problème là. Ouh là là, oui. Amour a pris un petit coup dans l'amour propre parce que là, aïe, ça peut partir en vrille à tout moment. Justice, aïe.
L'amour se relève et prend dans ses bras observation qui est là, qui observe,
mais qui ne fait pas plus. On entend le coach adverse, Korczak, qui dit « Battez-vous !» Il n'essaie pas du tout de calmer les tensions et ça y va.
Et non, il aime la bagarre, il la trouve belle cette bagarre.
Mais attendez, est-ce qu'ils se battent ou est-ce qu'ils font l'amour? On ne sait pas trop. Ils commencent à s'embrasser. Ah, le ballon a complètement disparu dans cette partie-là pour l'instant.
Écoutez, je ne vois plus deux équipes sur le terrain. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule équipe.
Mais oui.
Et on n'a plus de mots, je pense qu'on va devoir rendre l'antenne, sinon.
On rend l'antenne à vous, Stéphanie, merci à tous.
Alors, je reprends l'antenne, messieurs, et merci beaucoup pour cette retranscription en direct du terrain de l'expérimentation. On va passer, et sans transition bien évidemment, à une autre rubrique qui s'intéresse, et vous l'entendrez, à une autre mise en pratique de la pédagogie de Korczak. Nous passons d'un terrain à un autre donc, avec Mélodie Dabadi, qui est venue nous présenter sa conférence gesticulée « Itinéraire d'une sale gosse », dont nous entendrons un court extrait, et elle nous parlera ensuite de son association d'ateliers de rue à Grenoble, Madame Rutabaga.
Alors le conseil démocratique que vous venez de voir s'inspire de notre troisième pédagogue social. Émile Korczak, il était d'origine juive polonaise.